Bonjour à tous. Pour notre culte des moissons, je vous invite à suivre la lecture de plusieurs passages de la Bible qui me semblent donner une direction pour répondre à la question « Pourquoi marquons-nous ce moment ? En quoi nous encourage-t-il » En premier lieu, lisons un passage de la lettre de Paul aux Romains, Romains 8, versets 19 à 23. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien. Non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance. C'est la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Elle le fait en solidarité avec nous. Car ce n'est pas seulement la création qui souffre, nous qui avons déjà l'Esprit Saint, comme première part des dons que Dieu a promis, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et qu'il délivre nos cœurs de leurs souffrances. C'est un texte un peu mystérieux et surtout, quel serait le lien avec la question du culte des moissons ? Et dans quel sens peut-il nous encourager dans notre vie de disciples au quotidien ? Ce passage parle de la création, et la création est incroyablement importante pour nous dans notre vie sur terre, notre vie de créature, notre vie de chrétien avec toute notre espérance. Le texte nous parle de la création tout entière, tout ce que Dieu a créé, l'univers entier. C'est difficile de se représenter les milliards de galaxies autour de nous dans l'univers, mais plus proche de nous, c'est bien de l'ensemble de la Terre dont il est question, avec tout ce qu'on appelle les règnes minéraux, les règnes végétaux et animaux et les inclassables. Cette création, c'est tout ça, y compris les êtres humains, y compris nous-mêmes. Paul raconte les choses ainsi. Nous sommes dans un moment peu enviable, mais dans l'attente, dans l'espérance, dans l'attente de la réalisation de l'espérance. Prenons un peu de recul. D'abord, pour se rappeler que Paul, dans sa théologie, et spécialement dans ce passage, parle de l'accomplissement, c'est-à-dire de ce que Jésus a accompli du plan de Dieu pour sa création. Il a parlé aussi des temps à venir, ce qu'on appelle le « déjà et pas encore », le chevauchement des époques. Cela peut s'expliquer ainsi. En Christ, toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Dieu a prononcé son oui définitif. Nous lisons en 2 Corinthiens 1, 20. La nouvelle alliance a été établie par la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 11, 25 et 2 Corinthiens 3, 6. Jésus est l'aboutissement de la loi. Romains 10, 4. Dans le sens de toute l'Écriture. La nouvelle ère a été inaugurée, mais l'ancienne continue également. Les croyants vivent dans ce temps qui est en fait constitué par le chevauchement de deux époques, l'ancienne et la nouvelle. Leur regard est à la fois dirigé vers le passé, la croix de la résurrection de Jésus, et vers le futur, la seconde venue de Jésus, notre résurrection, jugement et renouvellement de toutes choses. Donc le verset 19 nous dit « La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. » Ce verset parle de ce temps, de déjà et de pas encore. Car nous savons déjà avec assurance que Dieu a fait de nous ses enfants comme nous acceptons, quand nous acceptons son amour et que nous vivons sa fidélité et sa justice. Mais aussi Avec le reste de la création, nous vivons dans le monde marqué par le péché, par la mort, par l'injustice. Cela prendra fin et c'est ce que la création attend. Les versets 20 et 21 disent « Car la création est tombée sous le pouvoir des forces qui ne mènent à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais à cause de celui qui l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Le mot pour caractériser le pouvoir des forces sous lesquelles la création est tombée est le mot que l'on retrouve tout au long du livre de l'Ecclésiaste, qui signifie « futile, vain, éphémère, précaire ». Il n'est pas clair si celui qui l'y a mise est connu ou pas. Et surtout, ce n'est pas un état qui est fait pour durer. En effet, la création est bonne. Il est important de le dire, de le répéter, car le récit de la création est le début de l'ensemble du récit biblique qui oriente la manière dont nous comprenons Dieu. Et la création est bonne, Dieu le répète, alors que les autres récits des origines, des autres cultures du Proche-Orient ancien et même plus près de nous sont marqués par des choses mauvaises, des conflits, des morts, de la violence. Mais le monde tel que nous le comprenons, celui que Dieu a créé, est bon. L'apparition du péché ne change pas cela, mais le complique bien sûr. Et nous n'avons pas de réponse satisfaisante à qui est responsable, pourquoi Dieu l'a permis. Et cela nous demanderait d'étudier bien d'autres passages ce matin. Relisons la fin du chapitre 1 de Genèse. Dieu a créé le monde et étape après étape, il vit que c'était bon. La terre et la mer, la végétation portant du fruit, les luminaires. Il bénit les oiseaux et les poissons. Il vit que la création des animaux terrestres est bonne. Il crée l'être humain, homme et femme, et les bénit. Je lis les versets 29 à 31. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut, à rat de terre et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'il s'en nourrisse. » Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Le fait que la création est bonne ne change pas. Même toute la méchanceté humaine n'y peut rien. La création reste marquée par le péché et la mort, mais elle reste bonne. Dans de nombreux psaumes et autres écrits, nous trouvons ces affirmations qui nous permettent d'en rester assurés. Au psaume 24, les versets 1 et 2, on peut lire « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établie fermement au-dessus des cours d'eau. » Le Créateur de toutes choses a tout appelé à l'existence par sa voix. Il a tout organisé. Et il ne se limite pas à cet acte originel. Il maintient sans cesse les créatures en vie. Il les oriente vers lui, leur donne du sens et leur donne sa bonté. Dieu assure ainsi la confiance que nous plaçons en lui. C'est ce que nous lisons à la fin du chapitre 8 de Romains. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, absolument rien. Et surtout, la création a un avenir, la création sera renouvelée. La création sera renouvelée, nous en avons l'assurance. Mais il semble parfois compliqué de comprendre ce que veut dire renouveler. Quand ? À quel moment ? La lecture des lettres de Paul, avec sa compréhension en tant que juif, nous invite à penser que ce renouvellement a déjà commencé sans être complètement achevé. Nous sommes dans cette période de déjà et de pas encore. Dans d'autres parties de la Bible, on trouve des enseignements explicites sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre, celle dont les élus sortiront pour accueillir en cortège le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, pour l'accueillir dans ce qui sera alors son royaume, la terre renouvelée où Dieu règnera enfin. Ce qui intéresse Paul, c'est le rétablissement de tout ce qui est en harmonie dans l'ordre créé. Cela a déjà commencé avec la crucifixion, la résurrection et la glorification de Jésus. Mais le processus de rétablissement sera comblé quand le péché et sa conséquence, la mort, auront été engloutis dans la victoire. En Éphésiens, Paul décrit ce rétablissement avec le terme « récapituler ». Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux, comme ce qui est sur la terre. Alors oui, toute la création soupire actuellement sous les effets du péché humain, comme nous le lisons en Romains 8. Le rétablissement environnemental de la terre elle-même fait partie de l'achèvement de toute chose, puisque la résurrection de Christ, la destinée des croyants et la destinée de la terre et celle de l'univers tout entier sont inexorablement liées. C'est là notre espérance. Paul, par ailleurs, écrit simplement que nous serons toujours avec le Seigneur et que nos corps ressuscités seront impérissables et immortels. Dans les écrits de Paul, on trouve ce qui pourrait être les bases d'une chronologie. Tel événement, puis tel autre, puis encore un autre. Ce qui entraîne parfois à chercher une telle chronologie pour savoir où nous en sommes et ce qui viendra. Mais fondamentalement, ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Quand on recherche des indications, on trouve plus certainement des commandements pour pratiquer la justice, planter et manger, et même vivre des fêtes marquant l'année. Pour marquer un temps de réflexion et de reconnaissance pour la fidélité de Dieu. Alors bien sûr, pour les fêtes et pour planter et manger, c'est toujours dans la limite accordée par Dieu, limite qui est de notre responsabilité. Nous pouvons lire aussi dans la Bible que Dieu déteste les fêtes, nos fêtes, Amos 5:21, et que Dieu prononce le malheur sur celui qui ajoute chant après chant, en Ésaïe 10. En tant que lecteurs de la Bible, nous lisons souvent des choses qui ne collent pas si on les lit trop vite. Mais bien souvent, et là c'est particulièrement visible, il s'agit de tout faire avec nos limites, en reconnaissant nos responsabilités et en s'exerçant toujours à pratiquer la justice. Cela nous amène dans le dernier point, le sens de notre reconnaissance pour cette création bonne et qui sera renouvelée. La création dans la Bible revient très souvent sous forme d'agriculture et de bonnes choses à manger, des descriptions de banquets et de temps de tranquillité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. C'est pour cela que nous célébrons un temps particulier de l'année, pour dire notre reconnaissance pour les récoltes, pour nous rappeler, nous qui en sommes parfois trop vite déconnectés, que notre pain quotidien nous vient toujours de la création et que nous sommes invités à y prendre part pour porter du fruit, là où Dieu nous place et nous permet d'en produire. Cela peut être dans son jardin ou non. Dieu ne s'arrête pas à nos possibilités jardinières. La première chose que je veux dire sur ce sujet est que parfois, il n'y a pas de fruits. Cette année, j'ai perdu la lutte contre les limaces pour la survie et l'épanouissement des fleurs de dahlia. Et c'est triste. Mais j'ai eu une production honorable de tomates qui a contribué aux sauces tomates familiales et j'en suis reconnaissante. Certains agriculteurs autour de nous ont une année très éprouvante, entre le manque de pluie, de la grêle violente et un contexte d'augmentation des prix. La nature n'est pas toujours un petit paradis, et la Bible est aussi très claire sur le sujet. Pour cela, je veux lire un passage difficile d'un petit prophète, Habacuc, au chapitre 3, les versets 17 à 19. « Car le figuier ne bourgeonnera plus, il n'y aura plus de raisin dans la vigne, le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus du pain à manger, les moutons et les chèvres disparaîtront de leur enclos et les bovins de leurs étals. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir, j'exulterai de joie, à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Où que nous soyons, où que nous ayons sémé des graines, en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté et en tant que faisant partie de l'humanité, que nous soyons encouragés aujourd'hui. Non pas en nous disant que tout ira bien, que les graines vont germer, se développer et porter du fruit qui sera utilisé, mais soyons encouragés, parce que la parole de Dieu nous invite aussi à nous lamenter en son temps pour les places dans nos vies qui sont une déception. Puissions-nous savoir avec certitude aujourd'hui que Dieu voit, que Dieu entend, que Dieu y prête une grande attention. Que nous puissions être capables de joindre notre voix à celle du prophète Habacuc. Et la bonne nouvelle maintenant. La bonne nouvelle, c'est que la fête des moissons nous invite à entrer toujours un peu plus dans le projet de Dieu, pour lequel il nous donne des instructions, nous invitant à prier pour que son règne vienne, pour que le monde soit rempli de sa justice, dans le renouvellement de la création. Les moissons, dans la Bible, sont très liées à la justice. Dieu donne des commandements spécifiques pour que le temps de la moisson soit marqué par l'accomplissement d'une société plus juste. Deutéronome 24, les versets 19 à 22. Quand tu moissonneras ton champ, si tu oublies une gerbe dans le champ, ne te retourne pas pour la ramasser. Laisse-la pour l'immigré, pour l'orphelin ou la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras. Quand tu secoueras tes oliviers, ne cueille pas ensuite ce qui reste aux branches. Ce sera pour l'immigré, l'orphelin ou la veuve. De même, quand tu vendangeras ta vigne, n'y reviens pas pour grappiller ce qui reste. Ce sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Rappelez-vous que vous avez été esclave en Égypte. C'est pourquoi je vous ordonne d'agir ainsi. Pendant cette saison de récolte de moisson, ce début de l'automne, que nous puissions prier et agir pour appeler à la justice et à l'équité pour tous. Prions toujours pour que toutes les personnes dans le monde entier qui souffrent de la brutalité du climat, mais aussi de l'injustice du système alimentaire mondial, prions pour que les plus pauvres ne soient pas victimes, mais qu'ils expérimentent l'abondance que Dieu veut leur donner, celle que la création créée veut nous donner à tous, à l'image de la manne que Dieu a envoyée dans le désert à son peuple. Dans nos prières, souvenons-nous de demander à Dieu de nous donner son Saint-Esprit pour nous guider dans notre participation au renouvellement de toutes choses. Amen.